VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Guiriec et John Lindon en votre compagnie. Bienvenue à cette édition du mardi 5 avril 2016. Au sommaire ce soir,
Brazzaville, important dispositif militaire dans la capitale au lendemain de combats. C'est dans ce contexte que les résultats de la présidentielle ont été validés.
Dans cette foulée-là, la Cour constitutionnelle a publié les résultats, a validé donc la réélection du président Sassou Nguesso.
Au Tchad, la marche pacifique de la société civile a été violemment réprimée par la police.
En RDC, les habitants de Lubumbashi s'inquiètent de l'arrivée de militaires et de chars de combat dans leur ville.
Je les ai vus moi-même de mes propres yeux au nuage de chars de combat avec des militaires.
Mali, le gouvernement réinstaure l'état d'urgence pour 10 jours.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais tout d'abord, le journal.
Procès du vice-président kényan William Ruto. La Cour pénale internationale a prononcé un non-lieu, une victoire pour ses partisans. En revanche, les victimes des violences post-électorales qui ont ensanglanté le Kenya en 2007-2008 sont amères. Un de leurs avocats demande même à la procureure de la CPI, Fatou Bensouma, de faire appel. Rappelons que William Ruto, 49 ans, était poursuivi pour des meurtres, persécutions et déportations qui avaient suivi la réélection contestée du président Mwai Kibaki. Plus de 1300 personnes avaient été tuées.
Attentat suicide dans le sud-est du Niger. Au moins 2 civils ont été tués ce mardi. D'après l'AFP, citant des sources concordantes, 2 kamikazes se sont fait exploser dans un véhicule de transport public près de la ville de Tifa, une zone régulière visée par les attaques de Boko Haram, la cible de Boko Haram.
Mali de nouveau en état d'urgence. La mesure décrétée pour 10 jours par le gouvernement est déjà en vigueur sur l'ensemble du territoire. Le gouvernement entend également faire une demande auprès de l'Assemblée nationale afin que la mesure soit prorogée pour une durée de 3 mois. On fait le point sur place avec Kassim Traoré.
C'est dans le cadre d'une démarche de prévention et d'anticipation sur les menaces réelles à la sécurité des personnes et de leurs biens que l'état d'urgence a été prorogé pour une période de 10 jours. Malheureusement, elle fait suite à un autre qui a duré 3 mois, soit du 21 décembre 2015 au 31 mars 2016. Selon le gouvernement, ce recours à l'état d'urgence a permis aux autorités compétentes de mieux circonscrire et de combattre les projets d'atteinte à la sécurité des personnes et de leurs bien, ainsi que des tentatives de troubles à la quiétude des populations à travers notamment des patrouilles, des perquisitions, les saisies d'armes, des véhicules et des interventions sur les scènes d'attaques terroristes ou des crimes. Mais sur le terrain, la réalité est tout autre. Les Maliens ne se sentent plus en sécurité car les attaques se multiplient de jour en jour. Malgré l'état d'urgence, il y a eu des attaques à Bamako, dont la dernière terroriste a été le 21 mars 2016. Bamako. Kassim Traoré, VOA Afrique.
La Cour constitutionnelle de la République du Congo a validé la victoire contestée par l'opposition du chef de l'État sortant Denis Sassou Nguesso à la présidentielle du 20 mars. Le climat reste toutefois tendu. Les quartiers sud de Brazzaville étaient quadrillés mardi matin par un important dispositif militaire au lendemain d'échanges de tirs ayant contraint des milliers d'habitants apeurés à fuir vers le centre de la ville. Les précisions de Tatiana Mosso.
Après 32 ans au pouvoir, Denis Sassou Nguesso a été réélu dès le premier tour avec 60,19% des suffrages exprimés. Selon Auguste Iloki, président de la Cour, le taux de participation a été de 68,92%. Des échanges de feu ont encore été entendus lundi en fin d'après-midi, mais la nuit a été calme. Un premier bilan d'une source policière fait état de 3 policiers et 2 assaillants tués. Les bérets noirs de l'armée ont pris la relève des éléments de la garde républicaine sur les principaux points stratégiques de la ville. L'armée a mis en place de nombreux barrages et des soldats fouillaient les rares véhicules dans la circulation. Des milliers d'habitants du sud de Brazzaville ont fui vers le centre-ville. Le gouvernement congolais accuse les miliciens Ninjan Silulu d'avoir mené cette attaque contre des bâtiments publics. Les autorités ont ouvert une enquête pour voir s'il existe un lien entre ces attaques et les candidats de l'opposition qui avaient appelé à la désobéissance civile pour contester la réélection du président Denis Sassou Nguesso.
À noter que le dirigeant d'opposition Guy Brice Parfait Kolela a déclaré à l'AFP qu'il jugeait bizarre la version des autorités de Brazzaville sur ces violences. Il demande une enquête en toute impartialité.
Au Tchad, la marche pacifique N'Djamena pour une alternance démocratique a été réprimée par la police. La manifestation avait été interdite. Sur place, notre envoyé spécial Bagassi Koura.
La marche programmée ce mardi a été empêchée par les forces de l'ordre. Tôt le matin, elles ont occupé les principaux lieux de rassemblement des manifestants où plusieurs dizaines d'hommes armés et de pick-up de la police anti-émeute et de la gendarmerie étaient visibles toute la matinée. Vers 8 heures, certains manifestants se sont repliés à la bourse du travail de N'Djamena où ils ont été accueillis par des tirs de gaz lacrymogène. La société civile parle d'un militant blessé. Lundi, le ministre de la Sécurité, Ahmad Mahamat Béchir, avait réaffirmé à VOA Afrique que la marche était interdite. « C'est une période spéciale. Seuls les candidats peuvent tenir des manifestations », a-t-il dit, faisant allusion à la campagne électorale. La société civile donne rendez-vous à ses militants jeudi prochain lors de la comparution devant le tribunal d'instance de N'Djamena de 4 des 5 militants arrêtés. N'Djamena, Bagassi Koura pour VOA Afrique.
Présidentiel au Gabon, le président démissionnaire de l'Assemblée nationale, Guy Nzouba Ndama, a annoncé sa candidature. D'après l'AFP, il a annoncé sa décision de se mettre à l'écart du Parti démocratique gabonais, le parti au pouvoir.
Nouveaux soupçons d'abus sexuels par des soldats de l'ONU. Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire visant des militaires français basés en Centrafrique. C'est ce que rapporte l'AFP citant une source judiciaire. Les faits se seraient produits en 2003 et 2005 à Dekoua, dans l'est du pays. Pas de précision sur le nombre de victimes, leur âge ou le nombre de militaires impliqués.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Arabie Saoudite, le colonel Khattab Majeb Al-Ahmadi, un officier du département des investigations criminelles, a été tué par des tirs d'inconnus près de Riyad. C'est ce qu'a annoncé le ministère de l'Intérieur. Une attaque aussitôt revendiquée par le groupe djihadiste État islamique, très actif dans le royaume.
Les électeurs du Wisconsin ont commencé à voter mardi matin pour les primaires républicaines et démocrates à la présidentielle américaine. Des consultations où, pour une fois, Donald Trump et Hillary Clinton ne partent pas favoris. Chez les républicains, le sénateur ultra-conservateur du Texas, Ted Cruz, devançait ces derniers jours Donald Trump. Les sondages lui donnant environ 40% des intentions de vote contre 35% pour le milliardaire. Du côté des démocrates, Hillary Clinton semblait, quant à elle, avoir abandonné tout espoir de gagner le Wisconsin, préférant se focaliser sur New York.
Et retour en Afrique, le président Zuma tient bon dans la tempête et évite la destitution. Le président sud-africain était donc dans la tempête depuis que la justice l'a reconnu coupable de violation de la Constitution. Il a pourtant survécu aujourd'hui à une procédure de destitution lancée par l'opposition qu'il accuse d'être un escroc et le cancer de la politique. Le chef de l'État a pu compter sur le soutien sans faille des députés de son parti, au Congrès national africain, l'ANC, qui ont usé de leur large majorité au Parlement pour rejeter cette motion.
Le pape François a exprimé le souhait de se rendre auprès des réfugiés sur une île grecque pour leur manifester sa solidarité, a indiqué ce mardi le Saint-Synode de l'Église de Grèce, précisant avoir donné son feu vert à une visite pontificale à Lesbos. Cette visite pourrait intervenir le 15 avril.
En France, des violences ont entaché deux nouvelles manifestations de lycéens et d'étudiants opposés à un projet de réforme du droit du travail qui cristallise les mécontentements à l'égard du président François Hollande. À Paris, des policiers ont chargé en fin de matinée une cinquantaine de jeunes et procédé à près de 130 interpellations.
La justice américaine a validé l'accord de 20,8 milliards de dollars conclu en octobre par BP et les États-Unis. Une décision qui met fin aux poursuites de Washington contre le géant pétrolier britannique dans la marée noire de 2010. La pénalité financière infligée par le gouvernement fédéral à BP est la plus grosse jamais acquittée par une entreprise en matière de pollution de l'environnement.
Le Premier ministre britannique David Cameron a été sommé aujourd'hui de rendre des comptes sur sa fortune familiale. Son père, Ian, s'étant retrouvé mentionné dans le scandale de fraude fiscale des Panama Papers. Selon le Guardian, Ian Cameron dirigeait un fonds d'investissement basé aux Bahamas, Bermond Holding, dont les profits ont échappé au fisc britannique pendant 30 ans grâce à un montage compliqué via le cabinet d'avocats panaméen Mossack Fonseca. Signalons dans le même registre que le ministre français des Finances, Michel Sapin, a déclaré aujourd'hui que Paris allait réinscrire le Panama sur sa liste des États et territoires non coopératifs en matière fiscale. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Nathalie Barge.
3200 fonctionnaires et agents publics au Cameroun n'ont pas encore reçu leur salaire du mois de mars. Rapporte l'APA, citant le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative comme étant à l'origine de la demande d'interruption de paye. Selon le ministère, ces personnels ne sont rattachés à aucune administration. Au départ, ils étaient 10 000 invités à clarifier leur situation, faute de quoi leur salaire serait suspendu. Certains fonctionnaires et agents de l'État disent ne pas avoir été au courant de la situation. La 29e conférence régionale de la FAO pour l'Afrique suit son cours à Abidjan. Ce mardi, les travaux ont porté notamment sur la présentation des priorités 2016-2017 à la réunion des experts qui prendra fin demain. L'organisation compte améliorer la mise en œuvre au niveau des pays du défi fin zéro à l'horizon 2025 de la gestion intégrée des paysages agricoles et du renforcement de la résilience dans les zones arides. Poursuite de la semaine du développement africain à Addis Abeba, durant laquelle notamment l'ancienne ministre des Finances du Nigeria, Ngozi Okonjo-Iweala, qui est la présidente du conseil d'administration de l'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination, a appelé tous les pays africains à investir massivement dans les programmes de vaccination, car, a-t-elle conseillé, cela revient moins cher de prévenir que de guérir.
Et on remercie Nathalie Barge pour la Minute Éco.
Une musique qui ne trompe pas, c'est l'heure du sport. Tatiana Mosso est dans ce studio. Bonsoir Tatiana.
Bonsoir John.
On commence par cette nouvelle qui fait l'effet d'une bombe dans la sphère du football congolais.
Effectivement, Dieu merci, Mboka Nimbezwa annonce qu'il ne jouera plus pour la RDC, présent à l'aéroport de Zaventem à Bruxelles le jour des attentats. Il devait rejoindre l'équipe nationale. Il n'a pas pris part au match contre l'Angola les 26 et 29 mars. Bien qu'attendu, il n'avait jamais rejoint donc Kinshasa. Le président Constant Omari avait promis des sanctions à l'encontre de l'attaquant de Norwich. Dans une interview exclusive accordée à Top Congo FM, Mboka Ni regrette les propos du président de la FECOFA et décide d'arrêter avec la sélection.
Et il y a des matchs cette semaine du côté européen.
Effectivement, le Paris Saint-Germain joue un quart de finale de Ligue des Champions à sa portée. Mercredi, face à Manchester City, nouveau riche comme lui, aux mains d'investisseurs du golf qui rêvent aussi d'atteindre pour la première fois le dernier carré. L'autre quart de finale aller opposera le Wolfsburg au Real Madrid. Ribéry titulaire, Coman sur le banc dans le match Bayern Munich face au Benfica. Et enfin l'Atlético avec Lucas et Carrasco face au Barça, sans surprise dans la composition de l'équipe.
L'athlétisme russe actuellement interdit de participation au JO de Rio en août, est à nouveau pointé du doigt.
Et les sanctions continuent. Cette fois-ci, c'est Tatiana Lysenko qui est dans le viseur. La championne olympique 2012 du lancer de marteau est provisoirement suspendue pour dopage, a indiqué la Fédération internationale d'athlétisme, sans spécifier la nature du produit en cause ni la date du contrôle positif. Lysenko aurait été contrôlée positive à l'issue de réanalyses pratiquées sur des échantillons prélevés en 2005 lors des mondiaux d'Helsinki.
Et on parle et Tatiana aussi d'athlétisme au Kenya.
Oui, le ministère des Sports et le comité olympique kényan se sont dit optimistes sur l'obtention d'un nouveau délai pour mettre sur pied une législation antidopage robuste et éviter une éventuelle interdiction de participer au JO de Rio. L'agence mondiale antidopage AMA avait donné au Kenya jusqu'au 5 avril pour adopter une nouvelle législation et financer ainsi une agence antidopage, alors que le pays avait échoué à se conformer à une première date butoir mi-février.
Merci Tatiana.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgan Guerriec et John Lindon en votre compagnie. Place au dossier du jour. Première escale ce soir, la République du Congo.
Au Congo-Brazzaville donc, les quartiers sud de la capitale ont été quadrillés par un important dispositif militaire. Hier, des hommes armés ont attaqué des bâtiments publics. Officiellement, 3 policiers et 2 assaillants ont été tués. Les autorités accusent les miliciens Ninja Nzilulu. Quelle est l'atmosphère aujourd'hui à Brazzaville? Idriss Fall a joint Nguila Ngusso, notre correspondant sur place.
L'atmosphère est calme à Brazzaville, mais quelques tensions quand même dans la partie sud où on peut encore observer des personnes, les femmes et les enfants notamment, qui quittent les maisons, qui se mettent sur les chemins dans les deux sens, c'est-à-dire pour s'enfoncer dans les quartiers sud ou bien pour aller dans les zones centre et nord de Brazzaville où c'est plus sécurisé. Mais globalement, il n'y a pas eu donc de coups de feu depuis la nuit et ce matin.
Est-ce qu'on a une idée de bilan de ces attaques?
Officiellement, on parle de 3 policiers qui ont été tués et 2 assaillants. Voilà ce que l'on sait. Vu que les affrontements ont eu lieu dans la nuit, les populations qui fouillaient ont témoigné avoir vu quelques corps, le corps d'un policier à Mafuta, donc dans la partie sud. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui sur le bilan. En dehors du bilan matériel que l'on sait que les commissariats des polices, la plupart ont été incendiés et puis les 2 sièges des arrondissements de Brazzaville. Mais je voulais également ajouter que ce matin, l'un de, donc, des sites du révérend Pasteur Ntumi, qui est aujourd'hui soupçonné d'avoir mis les jeunes armés dans la lutte pour combattre la police, même s'il s'est défendu sur nos antennes hier. Donc le Pasteur Ntumi, son site de Sumuna sur la route de Kinkala, a été attaqué ce matin. L'un de ses porte-parole confirme qu'il n'y a pas eu de victimes sur le site qui a été bombardé par hélicoptère. On apprend également qu'un autre site à Mayama, plus à l'ouest de Brazzaville, a été également bombardé, mais on n'a aucun bilan sur ce deuxième site où habitait le pasteur Ntumi lui-même.
Et on nous signale que la Cour constitutionnelle a aussi validé hier la réélection de Denis Sassou Nguesso.
Tout à fait. Dans cette foulée-là, la Cour constitutionnelle a publié les résultats, a validé donc la réélection du président Sassou Nguesso, 61,9%. Très peu de Congolais ont pu suivre, vu que la piscose était sur Brazzaville, mais il y en a qui ont suivi. Sauf qu'on a constaté qu'il n'y avait pas des scènes de joie et de liesse dans la ville hier soir. Et peut-être que le week-end, le parti au pouvoir pourra récupérer cette victoire pour fêter comme il se doit.
Nguila Ngusso, notre correspondant à Brazzaville.
Au Tchad, la marche pacifique de la coalition des organisations de la société civile a été violemment réprimée par la police aujourd'hui. Et cette manifestation visait non seulement à exiger la libération de 5 leaders de la société civile arrêtés, mais aussi à protester contre la candidature du président Déby à l'élection du 10 avril prochain. Le point avec notre correspondant sur place, André Kodmedjingar.
Il était 9h ce mardi 5 avril 2016 à la Bourse du Travail. Empêché de se retrouver devant l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Tchad, point de départ de la marche par les éléments de force de défense et de sécurité, les membres de la coalition de la société civile qui s'oppose au 5e mandat du président Déby se sont repliés ici à la Bourse du Travail pour exprimer leur ras-le-bol. Là encore, la police les a dispersés à coups de gaz lacrymogène. Un manifestant témoigne.
Non seulement ils ont tiré à balles réelles et avec des gaz lacrymogènes, mais ils ont osé brûler le symbole de la République qui est le drapeau. Vous avez ici présent 4 douilles qui ont été tirées sur les jeunes qui sont sortis massivement pour exprimer leur ras-le-bol contre la mauvaise gestion du risque de vie depuis 26 ans. Voici le drapeau brûlé. Nous déplorons également 4 ont été arrêtés. Il y a un qui a été gravement blessé.
Après quelques minutes d'échauffourée, la police se retire. Les manifestants se concertent sur d'autres actions à mener et improvisent un point de presse. Manga Jean Bosco, porte-parole adjoint de la coalition Trop c'est trop, déclare que toutes ces arrestations et intimidations n'entament en rien leur détermination.
Nous visons des voies de droit notamment notre constitution, qui nous donne la possibilité de nous opposer à tout régime qui veut s'imposer par la confiscation du pouvoir par la force. La preuve, c'est que toutes les voix discordantes qui veulent avoir un droit de regard sur les élections sont mises en prison. Et leur logique, c'est qu'il faut maintenir ces personnes dans la prison jusqu'à l'investiture. Nous autres, on est des prisonniers en sursis, mais nous allons arracher nos droits par tous les moyens que nous avons à notre disposition. Parce que nous disons que la résistance reste le seul devoir du citoyen face à l'imposition par la force des régimes.
Pour le constitutionnaliste indépendant professeur Ahmad Mohamed Hassan, lancer les gaz lacrymogènes dans les locaux de la Bourse du Travail est une violation des droits prévus par l'Organisation internationale du travail.
Le droit de manifester est un droit constitutionnel. La Bourse du Travail, c'est quelque chose de sacré, c'est comme le lieu d'une université ou d'une ambassade, parce que l'Organisation internationale du travail l'interdit. Dans les conventions de Genève, je suis désolé, les manifestations ne se font pas à la Bourse du Travail. Non, les manifestations se font dans la rue. Mais jusqu'à atteindre les travailleurs à la Bourse du Travail, c'est une mauvaise idée et c'est une mauvaise décision.
C'est sous cette tension que doit se tenir le 7 avril prochain le procès des quatre leaders de la société civile arrêtés et détenus à la maison d'arrêt depuis bientôt 2 semaines. André Kodumadingar Djamena, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique au Tchad, 24 heures sur 24, à N'Djamena, en direct sur 93.1 FM et sur FM Liberté, aussi à N'Djamena.
Cap maintenant sur la République démocratique du Congo. Les habitants de Lubumbashi, dans le Katanga, s'inquiètent de l'arrivée des militaires et de chars de combat dans leur ville depuis la fin de la semaine dernière. Ils sont sans information de la part des autorités. Reportage sur place de Narval Mabila.
Depuis vendredi 1er avril, Lubumbashi connaît un mouvement inhabituel de transport de chars, de combat, matériel militaire, les hommes des troupes, de la guerre de la SNCC, la Société Nationale de Chemin de Fer du Congo, du camp Major Vangu. Une situation qui n'a pas d'explication de la part des officiels, alors que la peur s'installe et l'inquiétude, et chaque louchoir l'explique à sa manière.
Je vis à Lubumbashi, je les ai vus moi-même, de chars de combat avec des militaires qui régulaient la circulation à leur manière pour faire passer les chars de combat là. C'est du terrorisme. Et nous traumatiser avec ces chars-là.
Même les gens des troupes, hein, ils sont là-bas, je ne sais pas si c'est STVD. Ils viennent de quelque part, c'est à Kisangani ou Bougna. Mais pourquoi ça? Et on ne sait pas ce qui nous attend dans l'avenir.
Ces équipements, ce ne sont pas contre la population. Par contre, c'est pour défendre la population. Donc on est en train maintenant de songer aussi à l'armée. Là, nous encourageons l'œuvre du gouvernement. Quand on songe à l'armée, c'est pour faire face à d'autres pays agresseurs, notamment les Rwanda, l'Ouganda, les Burundi, nos voisins qui nous entourent, qui nous agressent souvent.
Les ONG de droits de l'homme ne sont pas du reste. Une lettre ouverte vient d'être adressée au ministre de la Défense nationale congolaise afin de fournir une explication pour rassurer les habitants, mais aussi les investisseurs. Maître Timothée Mbouya de l'ONG Justicia SBL.
Vers la fin de la semaine passée, vendredi donc, des véhicules blindés, donc des chars de combat, sont arrivés à Lubumbashi avec des caisses de munitions et des hommes, des commandos sont donc arrivés à Lubumbashi. Il s'agit d'un mouvement des militaires qui ne peut que inquiéter des populations civiles. Les dispositifs militaires tels que nous le voyons aujourd'hui laissent penser qu'il y a de fortes manœuvres militaires dans la région et donc mon organisation n'a fait que transmettre auprès de la hiérarchie les inquiétudes de la population en demandant au ministre chargé de la Défense nationale, ancien combattant et réinsertion, de donner une explication, de dire à la population ce qui se passe.
Face au silence des autorités politico-militaires de la ville, nous avons joint le commissaire spécial Félicien Katanga, lui qui nous parle d'une opération tout à fait normale de déchargement et d'équipement de la 22e région militaire de FARDC.
La brigade Yo Katanga a été ravitaillée, équipée par le pouvoir central. Cet équipement est venu par voie de chemin de fer. Et alors, ici à Lubumbashi, il s'agit tout simplement de les décharger des wagons de la SNCC et de les amener au camp militaire Vangu.
Lubumbashi, Narval Mabila pour La Voix de l'Amérique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Guy Nzouban Dama, ancien président de l'Assemblée nationale du Gabon, poste dont il a démissionné la semaine dernière, a annoncé aujourd'hui à Libreville son intention de se présenter à la présidentielle prévue en août prochain. Les détails avec notre correspondant à Libreville, Jean-Rovis Dabani.
Devant plusieurs centaines de sympathisants, Guy Nzouban Dama est arrivé pile à l'heure. Vêtu d'un costume bleu marine, cravate rouge, Guy Nzouban Dama a été accueilli en héros dans ses résidences privées situées dans le quartier nord de Libreville, où il s'était donné rendez-vous. Opposants, universitaires, société civile, ancien premier ministre Omar Bongo était venu écouter la déclaration que tout le monde attendait. Après un discours très critique envers l'actuel chef de l'État, Ali Bongo, Guy Nzouban Dama a dit quitter le parti démocratique gabonais auquel il a appartenu avant de se porter candidat.
Je présente ici ma mise à l'écart du cadre réglementaire et statutaire du Parti démocratique gabonais. Cette décision est assortie d'une autre, la déclaration solennelle de ma candidature à l'élection présidentielle d'août 2016.
Figure politique bien connue au Gabon, président de l'Assemblée nationale depuis 20 ans, Nzouban Dama veut se poser en rassembleur.
En prenant cette décision, je ne veux être ni un héros, ni un martyr. Je veux être moi-même, Guy Nzouban Dama.
Le parlementaire a longtemps fait mystère de son intention de se présenter à la présidentielle de cette année, une discrétion qui prend aujourd'hui tout son sens.
Dès l'instant, j'appelle les Gabonaises et les Gabonais de l'Estuaire, du Haut-Ogooué, du Moyen-Ogooué, de l'Angounié, de la Nyanga, de l'Ogooué-Vindo, de l'Ogooué-Lolo, de l'Ogooué-Maritime et du Wellington à se lever comme un seul homme pour répondre à l'appel que je lance ce jour en vue de sauver le Gabon.
Le courant fondeur au sein du parti au pouvoir dont il est l'instigateur réunit désormais tous les élus démissionnaires qui sont venus grossir ses rangs. Libreville, Jean-Rovis Dabani, VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets débat. RM Show donne la parole aux auditeurs. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, La Voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Ne jugez pas, chaque humain est comme il est.
Je ne suis qu'un Africain.
Je veux marcher sur la lune, mais la voix c'est m'humilier. Et tous les jours, mes frères meurent par centaines et par milliers. J'ai les cheveux plus, je pourrais pas les gominer. Ils nous ont divisés pour mieux nous dominer. Ils nous ont séparés de nos frères les Antillais.
Je viens d'ici et je suis sénégalais. Je viens de France, mon enfance, moi je vais pas te l'étaler. Je repense souvent à l'Afrique, j'aimerais l'avoir décollé. Mais ce qui compte, c'est la santé. Ouais, c'est la santé. Je voulais rentrer au G8, mais je ne suis qu'un Africain. Construire des bolides, mais je ne suis qu'un Africain. Donner mon avis, mais du poids, j'en ai aucun. Ils m'ont vidé de mon sang, faut comprendre. C'est des requins. On bouge pas.
C'est la fin de cette édition. Joselle Morissin y assurait la mise en onde avec l'assistance technique de Wagner Robert à la console, à la présentation Morgan Kiriek et John Linden.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On maintient la conversation sur Facebook. Faites-nous part de ce qui domine l'actualité chez vous. Suggérez des sujets de reportage pour vos magazines, pour nos magazines. Partagez aussi vos photos et vidéos. Et n'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com pour plus d'infos 24 sur 24.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone.
N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.